C'est presque terminé la première journée du Masters. Il y a encore quelques joueurs sur le terrain, dont Koepka, si ce que je suis est bel et bien en direct. Juste pour vous dire que les pointages se sont améliorés plus la journée a avancé. Pas au point où les gars ne sont pas rattrapables quand même, mais deux co-meneurs à moins 6, Bryson DeChambeau, qui a terminé avec beaucoup de panache. Koepka également, qui a un moins 6 aujourd'hui. Et il est, je pense, sur autour du verre du 18e trou. Ensuite de ça, Phil Mickelson est à moins 5. Poulter à moins 4. Dustin Johnson à moins 4. Et je vous rappelle que Tiger est à moins 2. On va y revenir tout à l'heure. Maintenant, on va parler de l'Impact de Montréal qui se prépare à jouer son premier match local en fin de semaine contre le Crew de Columbus. Et pour ce faire, nous accueillons Jérémy Filosa. Bonsoir, Jérémy.
Salut, Mario.
Alors, quoi de mieux qu'une équipe qui a un aussi bon début de saison que le Crew de Columbus pour venir ouvrir la saison locale de l'Impact? Columbus qui a démarré la saison sur les chapeaux de roue, là, hein?
Oui, définitivement. Écoute, le Crew de Columbus, là, faut rappeler aux gens qu'est-ce qui s'est passé avec eux. L'année passée, là, ils étaient menacés de déménager à Austin, au Texas. Et à la dernière minute, il y a un homme d'affaires de la région de Columbus qui est venu acheter l'équipe pour la garder là-bas. Maintenant, l'équipe a connu une bonne saison l'année passée et un début de saison intéressant aussi avec plusieurs joueurs qui sont demeurés. Gaston Sauro, par exemple, Federico Higuaín, des gars qui sont là depuis longtemps, que les gens connaissent. Et malgré le bon début de saison, il n'y a pas grand monde dans le stade à Columbus. Mais ceci dit, sur le terrain, c'est une équipe qui va bien. Et donc, c'est un bon défi pour l'Impact parce que quand on regarde cela, eh bien, pour l'Impact de Montréal, lorsqu'on a affronté des bonnes équipes cette année, notamment Houston et Kansas City, ça s'est pas bien passé. Donc, c'est un bon défi pour l'Impact. Pour son match d'ouverture au Stade Saputo, premier match de la saison, bien sûr, à Montréal.
Et en prévision de cet affrontement local-là, le premier de l'année, Rémy Garde a été rendu disponible aux médias tôt ce matin. Comment voit-il ce match-là et dans quel état sera le terrain pour un premier match local?
Écoute, il semble quand même encouragé, là, malgré le fait que c'est au début de la semaine, c'était vraiment compliqué de travailler ce terrain-là. Je pense que pour cette année, ça va aller, Mario. Le problème va venir l'année prochaine parce que cette année, on a fait une exception pour l'Impact et la MLS a déjà dit à l'Impact, l'année prochaine, vous allez devoir vous conformer, vous allez devoir jouer des matchs à domicile au mois de mars. Donc, je sais pas ce que l'Impact va faire à partir de l'année prochaine, même qu'il y a des rumeurs qu'on voudrait commencer l'année au mois de février, Mario. Donc, imagine-toi du soccer au Stade Saputo au mois de février. Ce serait pas mal tiré par les cheveux. Donc, on a posé la question à Rémy Garde. Qu'en est-il du terrain au Stade Saputo et dans quel état sera le terrain? On l'écoute.
C'est une assez bonne préoccupation. On n'était pas là, mais on a eu les images de la tempête de neige pendant qu'on était à Washington. Et je sais que le club va tout mettre en œuvre pour qu'on puisse jouer ce premier match que tout le monde attend et qu'on a envie de jouer. La journée sera belle samedi au niveau de la météo. Jusque-là, je sais que voilà, le maximum sera fait. J'espère que ce sera dans les meilleures conditions possibles. Voilà, ceci étant, quand on a joué au Yankee Stadium, on peut presque jouer partout.
Ça en dit long sur l'opinion qu'on avait de l'état du terrain au Yankee Stadium, pitoyable avec les rouleaux de tourbe qui se détachaient. C'était assez incroyable. Maintenant, quant à la possibilité de gagner ce premier match local-là, samedi, quel genre d'alignement va-t-on présenter?
Ben écoute, ça va être un alignement qui va ressembler un peu à ce qu'on a vu justement à New York City, avec probablement Novillo sur l'aile gauche à la place de Piatti, probablement Okwonkwo sur la droite et Urruti qui va effectuer un retour au jeu, lui qui était suspendu en pointe. Donc Rémy Garde va devoir faire sans Nacho Piatti, malheureusement. On écoute ses explications.
Les nouvelles de Nacho, c'est qu'il y a toujours une douleur, donc malheureusement il sera pas là pour le match d'ouverture samedi. Et il y aura des examens complémentaires médicaux que le docteur a demandé en début de semaine prochaine, donc on en saura un peu plus la semaine prochaine. Pour le moment, voilà, ça évolue un petit peu, mais pas aussi vite qu'on l'espérait, donc examen complémentaire.
Alors, même pas certain, Mario, que Piatti sera disponible pour le match suivant à Philadelphie. En tout cas, pas pour l'instant.
Et ça remonte à la blessure qui avait fait suite à un contact où l'adversaire n'a pas été pénalisé. Hein?
Exactement. En fait, ça a été dans le match contre Orlando. Ça fait déjà presque un mois de cela. On avait piétiné Piatti. Il avait reçu un crampon derrière le mollet et son genou s'est tordu. Et bon, heureusement, il n'y a pas eu de dommages au ligament antérieur croisé parce que sinon, ça aurait été probablement pire. ce matin, comme la semaine dernière, Piatti s'entraînait en solitaire, donc seulement du jogging pour lui sur les lignes de touche, mais rien de plus, pas encore d'entraînement complet pour Nacho, là.
On est revenu, t'es revenu, t'as eu l'occasion de bavarder avec quelques joueurs qui étaient disponibles ce matin. T'as rencontré Samuel Piet, notamment.
Je voulais parler à Samuel Piet parce que le match de mardi, c'était vraiment un match très, très spécial avec Samuel qui joue le rôle de capitaine depuis que Piatti est blessé. Et c'est lui qui menait les troupes avec autour de lui 4 autres Québécois dans l'alignement, 6 Canadiens au total. Donc, je voulais qu'il m'explique le sentiment qu'occupaient ces joueurs-là dans le vestiaire quelques minutes avant de sauter sur le terrain à DC. Et il faut noter, bien sûr, qu'ils ont quand même très bien performé. On l'écoute.
Ben moi, personnellement, j'étais très, très content, très fier d'avoir d'autres Québécois, d'autres Canadiens qui méritent leur place dans l'alignement partant. Puis je pense qu'ils l'ont prouvé dans le match, ils ont super bien fait. Donc il fallait aussi faire des rotations avec le match de New York 2-3 jours avant, lui qui s'en vient samedi. Puis non, je pense que les gars ont répondu aux attentes. J'étais beaucoup en communication avec les gars autour de moi. J'ai essayé d'être le plus positif possible. Une première titularisation, tout le monde, chaque personne gère ça un peu différemment. Je connais le gars aussi, je sais que Clément, c'est quelqu'un qui est un peu plus nerveux. Mathieu, quelqu'un qui est un peu plus timide, donc un peu gérer les gars différemment. Puis non, tout le monde était là pour les entourer, les supporter. Mais honnêtement, on n'a pas eu besoin de trop faire. Je pense qu'ils ont tellement bien fait qu'ils ont répondu par eux-mêmes. Puis ils ont prouvé qu'ils avaient le talent, le potentiel puis les qualités pour faire partie de cette équipe-là.
J'aime entendre les propos de Samuel Piet. En tout cas, ça laisse deviner une présence vraiment positive de la part de Samuel auprès de tout ce monde-là, hein?
Oui, absolument. Puis Rémi Garde l'a déjà dit à plusieurs reprises. On lui a posé la question. Éventuellement, Nacho Piatti va quitter. Est-ce que tu vois un gars comme Samuel Piet éventuellement devenir le capitaine de cette équipe-là? Il a dit sans l'ombre d'un doute, oui. Puis en tout cas, on verra combien de temps Nacho va rester encore. Mais si Nacho reste cette année et la saison prochaine, par exemple, je pense qu'à partir de ce moment-là, Samuel Piet va être prêt à devenir le capitaine. Soit dit en passant, va falloir le renégocier bientôt, hein, Samuel, parce que son contrat va venir aussi à échéance. Mais je sais que l'impact est tellement satisfait de son travail que je pense pas qu'il y aura de problème à ce niveau-là.
Une bonne augmentation l'attend, donc?
Oui, absolument, oui, c'est certain. Il a signé quand même, je dirais pas à rabais, mais disons un deal de joueur local, là, lorsqu'il a quitté l'Espagne pour s'en venir ici. Mais écoute, Rémi Garde s'en sert à toutes les sauces. L'année passée, il a été partant pour tous les matchs de la saison, incluant championnat canadien et tout. Et je serais pas surpris que ce soit encore la même chose cette année. Vraiment un leader sur le terrain. Puis moi, à DC, quand je l'ai vu souvent discuter avec les arbitres, essayer de calmer le jeu, il y a beaucoup de communication dans son cas sur le terrain pour ce qui est des jeunes, mais aussi de ses coéquipiers qui sont des vétérans. Donc, moi, je le vois en lui, ce rôle de leadership-là.
Par ailleurs, le joueur qui avait égaré, oublié ou peu importe ce qui est arrivé à son fameux passeport, Harry Novillo, a joué son premier match en fin de semaine et va rejouer en fin de semaine prochaine, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est qu'il a rencontré des médias et ça, c'était la première fois que ça arrivait depuis tout ça, hein?
Oui, exactement. Premier départ pour lui samedi dernier à New York. Et puis, ça faisait plus de 2 semaines qu'on attendait de lui parler pour avoir des explications, à savoir finalement l'histoire du passeport. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et finalement, ben ça a duré, ça a traîné pendant longtemps. Et ce matin, on a finalement pu en avoir le cœur net. Donc, on écoute les explications de Harry Novillo par rapport à toute son histoire de passeport.
Il n'y a rien d'autre à dire. Tout a été dit dans la presse. Je pense que le passeport a été perdu. Après, voilà, je peux rien changer. Je peux pas le faire réapparaître. Donc, c'est pas de la panique. C'est plutôt de la frustration de ne pas pouvoir aider mes coéquipiers. Vous savez, on a un groupe. On est très soudés. Ça touche tout le monde. Et moi, le premier, parce que c'est, entre guillemets, je pouvais pas leur donner ce que je voulais leur donner. Donc, voilà, je les ai regardés. Je les ai soutenus. Malgré la défaite, ça change rien.
Alors voilà, Harry Novillo, j'aurais quand même aimé l'entendre dire qu'il s'excusait auprès des partisans parce que ce match-là, ça a été une déroute, là, le match qu'il a raté, là, et comme il l'a mentionné, puis Rémi Garde aussi, ça a été un facteur dans la semaine là, de savoir que le joueur avait perdu son passeport, puis finalement, ben ça a résulté en une défaite de 7-1. C'était pas juste à cause de cela, mais ça fait partie aussi du résultat, là.
Alors, samedi, donc, premier match local, as-tu une petite idée si tous les billets sont vendus?
Écoute, j'ai vérifié hier, je te dirais qu'il restait à peu près 1 500 billets disponibles. Ça, c'était hier. Et j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui attendaient de voir quel genre de météo on allait avoir à Montréal. Finalement, on est très chanceux. On annonce 15-16 degrés ensoleillés. Donc, on va se croiser les doigts, Mario, en espérant qu'on puisse vendre tous les billets disponibles pour le match d'ouverture. Parce que l'année passée, ça a été le match d'ouverture où il y a eu le moins de monde. Puis si je me souviens bien, il y avait quand même 29 000 personnes au Stade olympique. Ce serait décevant de ne pas avoir une salle comble pour ce premier match-là au Stade Saputo, parce que ce serait définitivement la plus petite foule de match ouverture depuis l'histoire de l'Impact en MLS.
Ce n'est pas ce qu'on souhaite, donc on annonce beau là, entre 14 et 17 degrés. J'espère que ça sera le cas. Puis ça me fait penser, parce que quand on parle du retour du baseball ou même de la nouvelle réalité de la MLS avec des matchs possiblement encore plus tôt dans le calendrier de l'année pour les prochaines années, Jérémy, tu sais, le premier match de l'histoire des Expos, ça a été disputé un 14 avril 1960. Ça va faire donc 50 ans lundi qui vient. Puis là, on regarde la météo qu'on a actuellement ce mois d'avril. Puis ça fait rien que me ramener à l'idée que ça prend un toit si on veut avancer là-dedans et connaître du succès. Et j'ai l'impression que même l'Impact, s'ils pouvaient dans le futur se doter d'un toit, eux aussi, ils le feraient.
Alors, malheureusement, c'est pas possible parce que les infrastructures ne sont pas suffisamment prévues pour ça. Solides pour soutenir un toit. Mais deux petites choses à vous dire. La date moyenne aux Blue Jays qu'on ouvre le toit en permanence pour l'été, c'est le 25 mai à Toronto. Et moi, j'ai toujours la citation du président des Brewers de Milwaukee, il y a de cela un an, qui célébrait, eux, les 20 ans de la construction du Miller Park. Et le président qui a dit « La meilleure décision prise dans l'histoire des Brewers de Milwaukee, ça a été de mettre un toit sur ce stade-là. » Ils ont généré plus de 2 millions de dollars de revenus par année supplémentaires juste à cause du toit.
Un gros merci, Jérémy. Alors, tant qu'à y aller casser pour faire les choses à moitié, on est tous bien de regarder Blue Jays. Je te remercie beaucoup. Bonne soirée, Jérémy. Et okay, à bientôt. Salut. On revient. Il sera question du Masters avec l'un des meilleurs joueurs de golf au Canada qui sera avec nous. Joey Savoie, qui fait partie d'ailleurs de l'équipe canadienne, un membre du Pine Grove avec nous pour commenter la journée d'aujourd'hui, jour numéro 1 au Masters.